Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Plusieurs cas de braconnage sont signalés dans les aires protégées de la République démocratique du Congo, perpétrés généralement par des forces incontrôlées. Cette chasse illégale menace la survie de certaines espèces animales. Souvent, les populations locales sont contraintes de guider les soldats vers leurs cibles, principalement les éléphants dont les ivoires sont convoités. Comment lutter efficacement contre le braconnage? Monsieur Guy Mbayima, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes le directeur technique de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Aujourd'hui, nous parlons du braconnage en République démocratique du Congo. Quelle est la situation sur terrain?
Bon, d'abord, un peu de rectificatif. Je suis directeur technique et scientifique.
Okay.
Bon, sur le terrain, la situation n'est pas bonne du tout. Dans plusieurs aires protégées, on assiste plutôt à une émergence, je dirais pas de braconniers comme tel, hein, c'est un peu mixte. On dirait des groupes armés qui, n'ayant rien à faire, font le braconnage. Parce qu'il est inadmissible qu'on ait des braconniers de l'ordre de 100 personnes avec des lance-roquettes et lourdement armés. Je n'appelle pas ça vraiment de braconniers comme tel. Je pense que ce sont des milices qui sont en train de se constituer ou de se reconstituer et donc d'opérer calmement sous forme de braconniers, quitte à plus tard surprendre dans une partie ou une autre de la RDC. Voilà.
Et pourquoi s'adonne-t-il à cette activité? C'est une activité rentable qui rapporte beaucoup de bénéfices, on dirait.
Bon, écoute, le braconnage, on sait que ça produit la viande pour le commerce. Ça rapporte gros. Et plus les trophées, et principalement le pointe d'ivoire, c'est un grand business. Maintenant, l'ivoire coûte excessivement cher sur le marché international. J'ai allé dire à votre radio au Capi il n'y a pas 4 mois. Et donc, parce que ça paye, au finish, ça paye.
Voilà, au finish, ça paye, donc c'est une activité qui attire beaucoup les groupes armés. Mais est-ce que ces groupes armés ou ces milices dont vous faites allusion sont bien identifiés?
Bon, il y a des endroits où ils sont très très bien identifiés. Par exemple, les cas de la réserve de faune à Okapi, dans la province orientale, les territoires de Mambasa et de Wamba. Il y a un certain tristement célèbre Morgan Sadala, il est bien identifié. Nous avons la cartographie de ces différentes localisations et de ces déplacements. Et bon, on a signalé à qui de droit. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a plus de 3 ou 4 localités dont les populations sont à débandade parce que il y a viol par ces groupes-là. Mais la question d'où leur viennent les armes et les munitions et même des lance-roquettes. Nous, en tant qu'ICSN, on dépose bien cette question.
Oui, pourtant, l'ICSN a des gardes forestiers. On peut dire qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour bien faire le travail.
Bon, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour faire le travail. Ils ont un certain niveau d'équipement. Mais
sont-ils armés?
On voit que dès lors qu'il s'agit de groupes armés, où il y a 150, 200 personnes armées, bon, ce n'est plus vraiment de la compétence de l'ICSN comme telle. Hein. Ça devient une affaire qui regarde la sécurité du territoire. Donc, ce sont les autorités qui ont la sécurité de personnes et de leurs biens balance d'attribution qui devrait réagir. Et là, je vous dis que, bon, l'armée a commencé à réagir parce que maintenant, il y a une opération mixte garde parc SRDC à la RFO, la réserve de faune à Okapi, et à la Salonga, et où nous venons de mettre la main sur un fameux monsieur Libali. Il est aux arrêts maintenant. Bon, donc c'est pour dire que les gardes ne sont pas totalement très bien équipés. L'ICCN est en train, avec ses partenaires, de faire un effort dans ce sens, mais ils ont quand même un peu d'équipement. Mais si la force en face est très grande, on fait appel à l'armée, et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Comment lutter efficacement contre le braconnage dans les aires protégées en République démocratique du Congo? Monsieur Guy Mbayima, directeur technique et scientifique à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, est notre invité ce matin. Et un auditeur, une auditrice nous a écrit, elle a posté cette question sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Il s'agit d'Aziza Hassani de Bukavu, et elle dit ceci: l'FDLR contrôle une grande partie du parc des Virunga. Je me demande si ça, s'il sera possible d'éradiquer ces phénomènes, le braconnage. Monsieur Guy Mbayima.
Bon, écoute, globalement, d'abord, pour lutter efficacement contre le braconnage, que les gens ne se trompent pas, ce n'est pas l'affaire de l'ICCN. Il y a trois axes qu'il faut adresser. Il y a l'axe extérieur, l'axe ICCN. Et puis, bon, évidemment, il y a l'axe développement durable. L'axe extérieur, c'est-à-dire les braconniers ne sont pas nés dans le parc, n'évoluent pas d'abord dans le parc, ils évoluent à l'extérieur du parc avant d'entrer dans le parc. Et là, ce sont les services qui ont compétence d'assurer la sécurité des personnes et de l'air, bien qu'ils doivent effectivement prendre cet aspect-là en charge. Et ça signifie le ministère de l'Intérieur, ça signifie notre armée, ça signifie nos services spécialisés comme l'ANER, et ça signifie le chef coutumier, ça signifie les populations locales. Parce que ces braconniers viennent des populations locales, quand ils s'installent, tout le monde le sait, et les parcs ne le savent pas. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'ICCN, qui doit être renforcé dans ses attributions, en termes de matériel d'ordonnancement, équipement de brousse, matériel roulant et formation. Et troisième axe, évidemment, il faut trouver des alternatives s'agissant de ressources vitales qui se trouvent dans le parc et qui ne se trouvent plus à l'extérieur ou se trouvent très peu. Il faut développer des alternatives de manière à les offrir à la population locale. Et chez nous, nous avons une politique. Nous sommes en train de promouvoir l'implication de la conservation dans le processus de développement durable des communautés riveraines. Voilà, grosso modo, ce qu'il faut. Bon, maintenant, la question de savoir est-ce que c'est impossible d'éradiquer le phénomène FDLR, eh bien, bon, ils sont dans le parc, on le sait. Ce n'est pas de la compétence du gouvernement, et je suis à la MONUSCO, et la MONUSCO est là pour ça.
Alors, dites-nous, M. Guy Mbayima, est-ce que les populations autochtones, les populations qui vivent aux environs des aires protégées également, ça donne au braconnage? Ou c'est simplement les bandes armées?
Bon, écoute, le braconnage fait par le membre de... Bon, écoute, il faut un peu corriger certaines choses. Si on dit la population qui habite, ça signifie que c'est globalisant. Et je pense qu'il faut... Les membres, certains membres de cette population riveraine, oui, ça donne au braconnage. Mais c'est un braconnage d'un niveau relativement faible ou pas trop dangereux. Et l'ICCN est à mesure vraiment de le contenir. Mais les plus grands dangers, ce sont ces bandes armées-là qui s'est commis en groupe de braconniers. L'ICCN fait ce qu'il peut faire, mais il faut une synergie, il faut synergiser les efforts sur les trois axes dont je viens de parler.
Alors,
s'il n'y a pas une telle synergie, ça devient difficile.
On va y revenir tout à l'heure. Alors, dites-nous, quelles sont les espèces qui sont beaucoup plus attaquées par ces braconniers?
Bon, il y a l'éléphant, hein. En premier lieu, il y a l'éléphant qui est très attaqué à cause de pointe d'ivoire et de prix à l'échange sur le marché international. Et là, je voulais dire qu'il n'y a pas que la RDC qui doit faire un effort. Les marchés où on écoule ces produits sont les marchés internationaux. Et je pense que la communauté internationale a une grande responsabilité par rapport à la promotion de ces marchés-là. Ok, à part les éléphants, vous avez les gorilles aussi qui sont menacés parce que on tue toute une famille de gorilles pour attraper les bébés gorilles, pour le vendre. Il y a les bonobos qui connaissent le même sort, et les okapis dont la viande est très prisée, les rhinocéros qui est en voie d'extinction, les rhinocéros blancs du Nord, qu'on avait jadis au parc national de la Garamba, et dont l'existence est hypothétique pour le moment. Et voilà, ça sont les espèces qui sont visées. Mais en sus de ces espèces, il y a d'autres qui fournissent la viande, qui arrosent les marchés. Ces espèces les sont autant.
Voilà. Alors aujourd'hui, l'année dernière, par exemple, d'après vos statistiques, combien d'éléphants ont été abattus par les braconniers?
En fait, nous sommes aux alentours de 500, hein, entre 500 et 1000 déjà abattus.
C'est entre 500 et 1000 éléphants abattus. Donc, il y a une menace sérieuse qui pèse sur cette espèce animale.
Vu que les journalistes, la menace n'est plus à... ce n'est plus sujet à caution. La menace, elle est réelle. Et les sur le terrain, et si on y prend garde, les éléphants vont disparaître. Et là, ne croyons pas que si les éléphants disparaissaient, nous allons, nous, ne pas en souffrir. Et loin s'en faut. Les éléphants jouent un rôle très important dans le maintien de la forêt. Ce sont eux qui distribuent, ce sont eux qui sèment beaucoup de graines, des arbres, qui sont d'une importance pour nous en tant que produit, en tant que matière première pour l'industrie pharmaceutique et en tant que matière première pour l'industrie d'exploitation de bois, et même en tant que élément du maintien simplement de relation entre les différentes composantes de l'écosystème forestier dont toute la vie est si tributaire en termes de production d'oxygène d'une part et de captation de carbone d'autre part. Et si l'éléphant disparaît, c'est cet ensemble cohérent qui est perturbé et les impacts, nous allons les ressentir. Si pas aujourd'hui, dans 50 ans.
Alors,
malheureusement, ça prend un peu de temps, mais nous sommes responsables de la vie de générations futures.
Alors, lorsque ces éléphants ou les gorilles, les bonobos sont abattus, ces bandes armées, où est-ce qu'ils vont écouler ces produits généralement? Est-ce que vous avez des informations sur la filière de vente?
Oh oui, ils vendent partout sur le marché, vu aussi de tout le monde, et avec la complicité de tout le monde. Les marchés sont contrôlés par des services ad hoc. Et ces services trouvent sur les marchés la viande de bourse et on ne se pose pas la question d'où elle vient cette viande. Nous avons la loi 82 qui réglemente la chasse. Et cette loi-là, il n'y a pas que l'ICCN qui peut l'appliquer dans les aires protégées, c'est même les aires en dehors de l'ICCN où cette loi s'applique. C'est-à-dire les chefs de localité, les chefs de groupement, l'administrateur du territoire, le gouverneur, et vous remontez. Et personne ne fait rien. Et on dirait que l'ICCN, c'est un service qui n'est pas un service de l'État et qui doit être interconnecté avec d'autres services de l'État pour qu'on l'appuie. Et c'est ça le problème.
C'est ça le problème. Comment lutter efficacement contre le braconnage en République démocratique du Congo? Au Cap Service, c'est reçu aujourd'hui M. Guy Mbalima, directeur technique et scientifique à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Vous avez des questions, des préoccupations, composez le 081 890 63 94.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la cuisine de l'après. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La cuisine de l'après, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Mavé Kisambika nous appelle des Kananga. Bonjour Mavé.
Bonjour à notre invité, tous les invités de Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Merci, monsieur Zoudi. Une question que j'aimerais directement notre invité, c'est de savoir. Premièrement, est-ce qu'il ne peut pas nous donner la définition du mot braconnage? Parce que beaucoup de gens, les auditeurs, s'inquiètent beaucoup sur ces mots-là. Peut donner la définition complète de ce mot. Ma préoccupation se base sur le niveau de la sécurité où se trouvent les parcs, et notamment les parcs, je dirais, où se trouvent les animaux qui sont beaucoup plus émergés dans ces parcs. Je voudrais demander si, quand le braconnier, qui sont en train d'exploiter d'une manière illégale les parcs, est-ce qu'il n'y a-t-il pas des procédures, soit des sanctions que les autorités de l'État sont en train de préconiser là-dessus?
Merci, Mavé. Monsieur Gimbaïma, vous êtes en ligne? Gimbaïma, voilà, nous rappelons qu'il est le directeur technique et scientifique à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Il intervient depuis Goma, dans la province du Nord Kivu. Et là, c'était Mavé Kisambika qui nous a appelé des Canada pour poser sa question. Il veut avoir la définition complète du mot braconnage et quelles sont les précautions prises par les autorités pour lutter contre cette chasse illégal. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations, nous rappelons notre numéro de téléphone, c'est le 081-896-3-94. Vous avez également la possibilité de nous écrire à service@radiocapi.net ou nous envoyer un SMS au 081-070-20-50. Vous pouvez également visiter la page Facebook du magazine Okapi Service. Okapi Service à Radio Okapi, vous pouvez poster vos commentaires, questions ou propositions, suggestions des sujets. Nous sommes là à votre service. Bien, nous parlons aujourd'hui du braconnage. Monsieur Guy Baïma est de nouveau en ligne. Vous êtes là, monsieur Guy?
Oui, je suis là.
Bien, Mavé Kisambika a appelé des Kananga. Il veut avoir la définition complète du mot braconnage et il veut savoir quelles sont les précautions prises par les autorités pour lutter contre ce phénomène-là.
Bon, c'est tout à fait illégal sur les ressources naturelles qui sont réglementées, dont l'usage ou l'utilisation est réglementée. Alors, si vous allez à l'encontre de cette réglementation, et s'il s'agit d'une aire protégée, vous êtes automatiquement en train de faire le braconnage. Et bon, même si c'est en dehors des aires protégées, s'il s'agit d'une espèce totalement protégée et vous tuez l'espèce ou vous l'utilisez très mal, en fait, vous faites du braconnage. Voilà.
Oui. Alors la solution aujourd'hui, vous avez dit que c'est à trois niveaux. Pouvez-vous rappeler ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre les
braconnages? Il y a l'axe, j'ai donné trois axes. Oui. Il y a l'axe extérieur, oui. Il y a l'axe ICCN, et puis il y a l'axe développement durable. L'axe extérieur, c'est tous les services qui sont commis à la protection de personnes et de l'air bien.
Donc l'application des services
que nous avons dans le parc, dans les aires protégées, viennent de l'extérieur. Et il se prépare à l'extérieur, et à l'extérieur, il y a l'armée, il y a la police, il y a les services spécialisés, il y a la population elle-même. Eh bien, si ces services ne font pas leur travail convenablement, bon, la conséquence, c'est que nous avons des braconniers dans le parc. Bon, deuxième axe, c'est l'ICCN, évidemment, c'est sa mission de protéger les aides protégées. Et donc, il faut que l'ICCN... On dote l'ICCN de tous les moyens nécessaires en matériel d'ordonnancement, équipement de bouse, matériel roulant, formation adéquate de gardes et création de conditions socio-professionnelles motivatrices. Troisième axe, c'est le développement durable. Les ressources qui sont prisées et qui se trouvent dans le parc, qui, par une mauvaise utilisation à l'extérieur du parc, s'est raréfiée, font que maintenant la population s'abatte dans le parc. Alors, pour donner solution à ça, il faut développer des alternatives.
Okay.
De manière, premièrement, à bien gérer ces mêmes ressources-là qui sont à l'extérieur, il faut instaurer des programmes de gestion rationnelle et durable de ces ressources, de manière à ce que ces ressources puissent se reconstituer en dehors du parc et la population puisse en servir. Ça, c'est de un. De deux, il faut développer, notamment pour ce qui est des gibiers, il faut concevoir des élevages à gibier et suppléer ces élevages par les élevages des animaux domestiques de manière à fournir le protéine d'origine animale dont la population a besoin. Et troisièmement, il faut que la conservation puisse s'impliquer résolument dans le processus du développement des communautés riveraines. Voilà.
Alors, une question, est-ce qu'il y a, existe-t-il des certaines espèces aquatiques qui sont également menacées par les braconniers?
Oui, oui, il y en a.
Lesquels
si, nous sommes dans le Nord Kivu.
Mm-hmm.
Et au parc national de Virunga, il y a un lac, le lac Édouard, qui est là.
Mm-hmm.
Et maintenant, les ridicules ne tuent pas les Congolais. Nous avons les deux tiers de ces lacs, l'Ouganda, un tiers. Et on n'a pas honte d'aller acheter le poisson en Ouganda. Parce que chez nous, on a mal géré cette ressource ichtyologique. Il n'y a pas 10 ans, on voyait les bassinets de poissons ici à Goma. Et nous, à l'époque, on avait tiré la sonnette d'alarme pour dire que, bon, maintenant, il y a surpêche par rapport à la capacité de production naturelle de ces poissons,
mmh.
Et les frayères qui sont la maternité des poissons, et les gens vont y pêcher, et ils utilisent quel filet, de quelle maille, ils ramassent tous. Conséquence, aujourd'hui, la production de poissons a diminué.
Mmh.
Et tandis que les Ougandais ont bien géré les leurs, conséquence, nous sommes tributaires de poissons ougandais, et l'Ouganda n'a qu'un tiers, nous deux tiers. Je pense que
donc cela
est une forme pour laquelle la RDC devrait avoir honte.
Oui, cela est une forme de braconnage aussi.
Absolument, absolument, absolument. Mmh. Et ce que nous faisons, nous sommes en train d'élaborer une stratégie de restauration, mais on ne nous suit pas. Personne ne nous soutient. Vous comprenez, je ne suis pas en train de diffamer. Vous arrivez à Vichumbi, vous voyez tout ce qu'on a là comme service de l'État. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pour encourager les pêcheurs dans ce mouvement illégal, dans cette activité illégale.
Alors, comme personne ne vous soutient, donc on peut supposer qu'il n'y a toujours pas aucune solution durable, donc la situation risque de durer longtemps.
Bon, écoute, j'étais un peu plus fort quand je disais ça. Nous avons une stratégie de la conservation de la biodiversité dans les aires protégées, et un des axes, c'est la promotion de la collaboration interinstitutionnelle.
Mmh.
Et là, le voie commence à s'élever, et nous commençons à voir le soutien de certaines structures de l'État. Je donnerai, pour exemple, le gouvernorat de la province de Nord Kivu. On a vu, il n'y a pas de 2 semaines, son excellence, monsieur le gouverneur, qui est vraiment prêt à nous donner tout l'appui nécessaire.
Mmh.
Et là, les voix commencent à s'élever. Je vous ai dit que à la RFO et à la Salonga, actuellement, nous bénéficions d'un appui substantiel et essentiel de nos éléments de FARDC. Eh bien, je pense que la solution viendra au travers de cet axe stratégique qui est la promotion interinstitutionnelle, la collaboration interinstitutionnelle. Et on va créer des structures pour l'animation de cette collaboration-là. Et ça commence déjà à se mettre en place. Et bon, écoute, je pense que les jours qui viennent, si ça va dans le sens où nous allons maintenant, y espoir.
Bien, merci à Gimba Iman. Nous rappelons que vous êtes le directeur technique et scientifique à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Vous intervenez depuis à Goma, dans la province du Nord Kivu. Merci et à la prochaine.
À la prochaine. Merci à vous. Bye.